Donc, cet après-midi, nous allons parler avec ce qu'on a pu vivre dernièrement, le départ de Geneviève Poudière, qui est de Nîmes, qui partait avec le Seigneur. Là, bon, je connais pas la maman de Chantal, mais on, voilà, il y a plusieurs personnes qui, cette année, qui sont parties avec le Seigneur. Un pasteur en Inde, Carl Silva. Ça nous rappelle que notre vie n'est qu'une vapeur. Et on voit que Jésus, devant le tombeau de Lazare, il s'est mis à frémir. Ça veut dire comme un cheval qui s'ébroue. Il y a quelque chose qui le gêne dans son lit. Et c'est dans Jean 11, 33 et 38. Tout ça parce qu'en fait, il ne supportait pas l'odeur de la mort. C'est pas quelque chose de naturel. Car lui, il est le prince de vie. Et donc, voilà, on vit des choses. Ouais. Devant ça, là, c'est la tristesse, séparation, l'absence. Mais aussi, il y a une odeur de vie. Lorsque... Je suis trop émotive, je m'étais promis de pas pleurer. Mais je suis vraiment une madeleine. Alors, voilà, une odeur de vie. Et ça, c'est beau. C'est vraiment notre espérance. On sait que tous ces êtres chers sont dans la présence de Dieu. Et vraiment, moi, ça m'a parlé aussi. Sur le fait que ma vie, je dois attendre la venue de Jésus. L'apôtre Paul l'a dit, il dit bientôt je vais voir le Seigneur et puis voilà, j'aurai combattu bon combat, j'aurai gardé la foi, j'aurai achevé la course et la couronne de justice m'est réservée. Et donc ça c'est vraiment une espérance, c'est pour ça que on va pas parler de funérailles, enfin, on utilise plutôt ces termes de cérémonie, de souvenir, parce que c'est pas fini. Ceux qui ont l'espérance en Christ, c'est juste une nouvelle étape, et là ils sont dans la gloire avec Jésus. Et pour nous qui restons, on peut juste méditer sur le témoignage de leur vie, ce qu'il reste. C'est vrai que notre vie n'est qu'une vapeur, mais cette vapeur, elle a un parfum. C'est le parfum de Christ. Et donc le plan de Dieu pour nos vies, c'est pas seulement d'être une vapeur, mais d'être le parfum de Christ répandu, d'abord en nous, et aussi pour notre génération, le temps que Dieu nous donne de vivre. Seigneur nous rappelle à compter nos jours et à racheter le temps. Parce que les temps là sont mauvais. De plus en plus, on n'est pas étonné par ce qui se passe. Parce que le Seigneur nous a prévenus. Quand on lit l'Apocalypse, on voit les choses qui se mettent en place. Mais on sait que le plan de Dieu est parfait et il ira à son terme. Et ça, c'est vraiment une fondation pour notre vie. Et donc, c'est vrai que, voilà, on a un temps que le Seigneur connaît ici sur cette terre. Et puis, une mission, et en particulier celle d'annoncer l'Évangile, d'amener les âmes à Christ, de devenir plus comme lui, parce que c'est par ce moyen-là qu'on va pouvoir amener les âmes à Christ. Voilà. Donc, je voulais parler d'odeur et de parfum. La première chose, c'est une mauvaise odeur pour Dieu. Qu'est-ce qui est une mauvaise odeur pour Dieu? Là, on le voit dans dès Genèse, chapitre 3, verset 19. Adam et Ève ont péché, et puis il y a la malédiction qui tombe, et dit, c'est à la sueur de ton visage que tu mangeras ton pain. Jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris, car tu es poussière, et tu retourneras dans la poussière. à cause du péché, bien sûr, la mort est entrée dans le monde et on vit, voilà, la mort et ça commence avec cette odeur que personne n'aime, c'est la sueur. Et c'est le début, en fait, on va dire, un peu d'une putréfaction. Et dans le service pour Dieu, on voit qu'il ne devait pas y avoir du sueur. Dans Ézéchiel, chapitre 44, et verset 18, il était dit qu'ils auront des tiares de lin sur la tête, des cassons de lin sur leur rein. Ils ne se ceindront point de manière à exciter la sueur. Parce que tout ça, ça renvoie à cette malédiction que nous sommes pécheurs et les efforts humains, en fait, ne sont pas à la gloire de Dieu. Et un des exemples qu'on a, c'est quand on voit l'offrande de Caïn et d'Abel. Donc Caïn, lui, il a fait pousser des fruits du sol. Il était fier de sa récolte. Et il les a présentés à l'Éternel comme une offrande. Alors, c'était pas ce que Dieu lui avait demandé. Imagine que Dieu a enseigné Abel, Caïn, Adam, Ève. Parce que s'il disait qu'il n'était pas content de l'offrande et qu'il lui avait rien dit, ce n'est pas quelque chose de juste. Or, Dieu est juste. Par contre, Abel, bah, lui, il s'occupait d'un troupeau, du bétail, alors qu'à ce moment-là, on ne mangeait pas de viande. Donc, seule raison de faire ça, c'était pour les sacrifices et pour la peau des animaux, pour se couvrir. Donc, on en déduit que Caïn, donc, savait ce qu'il fallait apporter comme offrande, l'odeur qui plaisait à Dieu. Mais il n'a pas fait ça, lui. Il en a fait un peu qu'à sa tête. Et donc, en fait, quand Dieu n'a pas agréé son offrande, bien sûr, il n'était pas content. Voilà, donc un exemple déjà de l'homme qui essaye de s'approcher de Dieu par ses propres moyens. Et en fait, c'est impossible. Par contre, la bonne nouvelle, c'est que le sacrifice d'un animal innocent et qui préfigure le sacrifice de Jésus-Christ, c'est le moyen de s'approcher devant Dieu. C'est le moyen pour le péché d'être expié et nous réconcilier donc avec Dieu. Donc on voit, en ce qui concerne la malédiction, la mort, l'effort humain, la chair, dans Romains 7, il est parlé qu'on a un corps de mort, et dans Romains 6, 6, un corps de péché. Donc comme je disais, ce qui est une bonne odeur pour Dieu, nous, peut-être que ça nous plairait pas vraiment comme odeur. Moi, j'ai senti l'odeur du méchoui lors de réunions de famille. J'avais en horreur le goût du méchoui déjà. Alors rien que l'odeur, ça me faisait fuir. Mais bon, je pouvais pas y échapper. Mais par contre, pour Dieu, je sais pas si c'était la même odeur, mais la chair qui brûle, l'offrande d'animaux qui sont consumés, c'est une bonne odeur pour lui. Donc, dans Romains 3, 23 et 25, il est dit, ils sont gratuitement déclarés justes par sa grâce, donc les êtres humains, et c'est lui que Dieu a destiné, en parlant de Jésus, à être par son sang une victime expiatoire pour ceux qui croiraient. Donc, c'est une bonne odeur pour Dieu parce que par ce moyen-là, on peut être réconcilié avec Dieu. Nous sommes sa créature, il nous a créés pour son bon plaisir. Lorsqu'il nous a créés, il nous a dit que c'était très bien. Et donc, il y a tellement ce désir de relation avec nous. Donc, sur la croix, bien sûr, tout a été accompli. Dieu a tout fait, en fait, en envoyant Jésus-Christ. Jésus-Christ a accepté la mission. Et il a accepté la mort de la croix. Et bien sûr, il est ressuscité parce que son sang était parfait, acceptable devant Dieu. Et donc pour nous, bien nous avons été régénérés par le Saint-Esprit. Nous sommes enfants de Dieu, assis dans les lieux célestes. Nous avons l'assurance du salut, les promesses de Dieu. Ensuite, après, dans l'histoire d'Israël, j'ai parlé d'odeurs. Il y avait d'autres odeurs, bien sûr, qui ne plaisaient pas à Dieu. C'était les parfums qui étaient offerts aux idoles. Et combien de fois, dans l'Ancien Testament, on voit que le peuple de Dieu s'est détourné, malheureusement, du Dieu de l'univers, du Créateur, et de ce que Dieu avait donné comme par sa parole pour l'adorer, ce qu'il fallait faire. Et ils ont offert d'autres choses, des parfums. Et ça, c'était des odeurs vraiment que Dieu n'aimait pas du tout. Par contre, donc on va venir maintenant avec les parfums, justement. Dieu a donné des parfums pour l'adorer aussi. Alors, les parfums, on peut dire que c'est là pour couvrir les mauvaises odeurs. C'était, et c'est encore, enfin, utilisé largement en Orient, il fait très chaud. C'était un signe de richesse, de séduction. Comme je disais aussi, c'était utilisé pour l'adoration des idoles. Un moyen de rendre plaisir aux dieux. On offrait des parfums aussi en sacrifice pour obtenir des faveurs. Par contre, pour le service de Dieu, c'est Dieu lui-même qui a dicté ses règles, en fait. Et on voit ça dans Exode chapitre 30, lorsque Dieu demande à Moïse de construire le tabernacle et tout ce qu'il y aura dedans. Eh bien, il y a l'autel des parfums et puis les parfums du sanctuaire. Donc, et je voulais m'attarder un petit peu sur ces parfums-là, ce qu'ils représentent. Comment adorer Dieu. Et c'est lui qui a montré le moyen. À la différence des païens qui ne savaient pas trop comment faire, qui se disaient peut-être en offrant tel sacrifice, j'aurais peut-être les faveurs de cette idole ou quoi. Là, Dieu, il dit, voilà comment vous devez faire. Chaque fois, Dieu vient vers nous, il nous dit les choses. Et ce qu'il ne veut pas qu'on soit dans l'ignorance ou dans l'erreur. Et ça, vraiment, c'est un trait de son caractère qui est vraiment extraordinaire. Donc, les parfums du sanctuaire, il y avait l'huile d'onction. On va peut-être lire donc chapitre 30 d'Exode, verset 22. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Prends des meilleurs aromates, 500 cycles de myrrhe, de celles qui coulent d'elles-mêmes, la moitié, soit 250 cycles de cinnamome aromatique, 250 cycles de roseau aromatique, 500 cycles de casse, selon le cycle du sanctuaire, et un d'huile d'olive. Tu feras avec cela une huile pour l'onction sainte, composition de parfum selon l'art du parfumeur. Ce sera l'huile pour l'onction sainte. Tu en moindras la tente d'assignation et l'arche du témoignage, la table et tous ses ustensiles, le chandelier et ses ustensiles, l'autel des parfums, l'autel des holocaustes et tous ses ustensiles, la cuve avec sa base. Tu sanctifieras ces choses et elles seront très saintes. Tout ce qui les touchera sera sanctifié. Tu oindras oint à Aaron et ses fils et tu les sanctifieras pour qu'ils soient à mon service dans le sacerdoce. Tu parleras aux enfants d'Israël et tu diras, ce sera pour moi l'huile de l'onction sainte parmi vos descendants. On n'en répandra point sur le corps d'un homme et vous n'en ferez point de semblable dans les mêmes proportions. Elle est sainte et vous la regarderez comme sainte. Quiconque en composera de semblable ou en mettra sur un étranger sera retranché de son peuple. Donc là, on voit vraiment une description précise de ce parfum. Alors, j'essayais d'imaginer un petit peu, donc, chaque partie du tabernacle était imbibée ou pas sentait cette odeur particulière qu'il ne fallait absolument pas reproduire pour des convenances personnelles. Donc vraiment, c'était pour le peuple de Dieu l'odeur de Dieu, de la présence de Dieu, puisqu'ensuite, vous voyez que la nuée qui venait sur le tabernacle, donc c'était vraiment quelque chose de très très particulier. Et tous les sacrificateurs, ils sentaient cette odeur constamment. Voilà, donc, et tout cela, ça signifie que ces choses-là étaient consacrées, saintes, mises à part. Nous est dit dans Apocalypse aussi que nous sommes des sacrificateurs aujourd'hui. Et donc nous sommes aussi mis à part, consacrés par cette onction d'huile. Alors, les éléments qui composent cette huile, donc c'était premièrement la myrrhe, qui est une résine très amère et d'odeur agréable. La Bible en parle souvent. Jésus, à sa naissance, a reçu en offrande de la myrrhe et de l'encens. Donc elle vient d'un arbre dont le tronc blessé donne des larmes qui se coagulent à l'air. Donc il fallait faire une entaille dans ce tronc et cette myrrhe goûter, voilà, et ça sous forme de larmes. Donc ça représente les souffrances de Jésus-Christ, l'homme de douleur dont il est parlé dans Ésaïe 53, verset 3, méprisé des hommes et ressentant profondément l'indifférence, l'incrédulité des siens. La myrrhe nous parle aussi de l'amertume de la mort que Jésus-Christ a acceptée en pleine obéissance, dans Marc 14, 32 et 42. Et donc il a accepté d'être un homme, et en même temps, c'était un homme sans péché. Ensuite, nous avons le cinnamome. C'est un bel arbre dont le feuillage est toujours vert, qui répand au loin le parfum de son écorce. Et ça, c'est l'image de l'humanité parfaite de Christ. Dans Éphésiens 2:3, il nous est dit que Jésus reçut le parfait témoignage de la satisfaction de son Père. Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai trouvé mon plaisir. Dans Matthieu 3:17. Donc, il était d'une part un homme parfait devant Dieu, pour Dieu, et d'autre part, une manifestation parfaite d'un Dieu d'amour pour l'homme. Donc là, on voit vraiment les perfections de Christ au travers de chaque aromate ou drogue composée, l'onction d'huile. Le troisième élément, c'est le roseau aromatique. On le recueillait dans les marécages. Bien que toute la plante soit parfumée, l'aromate est surtout extrait de la nard racine qui plongeait dans la boue profonde. Le roseau qui plie sous le vent nous montre Christ participant en sympathie aux épreuves qui courbent et froissent les hommes. Il est dit dans Ésaïe 42 qu'il ne brisera pas le roseau froissé. Et pour obtenir ce parfum, on devait broyer la plante. Ça me rappelle aussi dans Hébreux, lorsqu'il est parlé de l'obéissance de Christ. Ça lui a coûté. Voilà. Il a pris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Ensuite, on a la casse. Ça vient aussi d'un arbre magnifique. Et ce parfum parle de la grandeur, de la beauté spirituelle de la personne de Jésus-Christ. Donc c'est perfection. Il est entièrement saint, entièrement juste, entièrement amour, 100% dans tous les domaines. Dans Psaume 45, au verset 8, on a une description de Jésus-Christ et il dit « Tous tes vêtements sont Mir, Aloès et Kaf. Et donc ça résume en ces trois parfums l'œuvre de Christ. La myrrhe, c'est les souffrances. L'aloès, en fait, j'en ai pas parlé, mais l'aloès est présente ensuite dans un autre endroit. Et c'était aussi employé pour embaumer les morts. Donc on associait la myrrhe et l'aloès. Et la casse parle aussi de la résurrection et de la glorification. Donc, Christ a souffert à notre place pour expier nos péchés. Il est mort pour nous tirer de notre mort spirituelle. Il est ressuscité, nous entraînant à sa suite dans une vie nouvelle et éclatante. Et donc, avec tous ces arômes, donc, on ajoutait donc l'huile d'olive, c'était et l'huile d'olive, donc bien sûr, ça parle du Saint-Esprit. Et comment nous pouvons goûter aux perfections de Christ, c'est au travers du Saint-Esprit que nous avons reçu. Ensuite, on a l'encens. Alors donc, l'huile d'onction était répandue sur tout ce qui concernait le tabernacle, tous les éléments du tabernacle. Et ensuite, l'encens, eh bien, c'était ce qu'on mettait sur l'autel des parfums. Et c'était ce qui brûlait matin et soir. Donc là, c'est chapitre 30, toujours à Exode, verset 7. « Aaron, il fera brûler du parfum odoriférant. Il en fera brûler chaque matin lorsqu'il préparera les lampes. Il en fera brûler aussi entre les deux soirs lorsqu'il arrangera les lampes. C'est ainsi que l'on brûlera à perpétuité du parfum devant l'Éternel parmi vos descendants. Vous n'offrirez sur l'autel ni parfum étranger, ni holocauste, ni offrande, et vous n'y répandrez aucune libation. Une fois chaque année, Aaron fera des expiations sur les cornes de l'autel avec le sang de la victime expiatoire. Il y sera fait des expiations une fois chaque année parmi vos descendants. Ce sera une chose très sainte devant l'Éternel. » Donc là, c'est sur l'autel des parfums. C'était une sorte de... est-ce que j'ai dit de quoi c'est composé? Allez. Ensuite, il y a... Je ne vois peut-être pas lire, mais chapitre 30 et 34, il reprend ça. Ah oui, donc là, ils disent quels sont les aromates pour fabriquer l'encens. Donc, on a le stacte. Ça se trouve à l'état de gouttelette à l'intérieur des grains de myrrhe. Donc, dans les grains de myrrhe, sous forme de gouttelette, il y a le stacte. Il est donc invisible à l'œil humain. Et ça, donc ça nous parle de ce qui est si grand et profond dans l'œuvre de Christ, que Dieu seul peut le discerner et l'apprécier à sa juste valeur. On peut dire que ça peut représenter la souveraineté de Dieu, des choses qu'on ne saura jamais, mais en faisant confiance à Dieu, on sait que Dieu sait pourquoi il fait telle ou telle chose, il permet telle ou telle chose. Il est souverain, comme on l'a pu entendre aussi même sur l'enseignement du mal, hein, pourquoi le mal. Voilà, on n'a pas toute l'explication, mais on sait que Dieu, il est entièrement juste et entièrement parfait. Et même si nous, on ne comprend pas, il est Dieu, quoi. Donc ça, c'est... Cet aromate qui représentait la grandeur de Dieu et profondeur de Dieu. Voilà. Ensuite, il fallait une coquille odoriférante. Donc cet élément-là provient du fond de la mer et doit être broyé pour livrer son parfum. Elle évoque donc les souffrances de Christ sous les vagues du jugement de Dieu. Comment Dieu a accepté de porter tous les péchés d'humanité. Des fois, j'essaie d'imaginer ces heures de solitude pour lui, de souillure à cause de nos péchés, à cause du péché d'humanité. Donc, Il a accepté. Il a accepté tout cela pour le salut des hommes, pour tout, pour que tout soit sauvé. Dieu veut que tout soit sauvé. Ensuite, on a le galbanum. Cet ingrédient a par lui-même une odeur âcre et désagréable. Mais il ajoute de la force aux autres parfums. Et donc Christ, à cause de ses perfections, de ses enseignements, sans flatterie, ne pouvait être goûté par les hommes orgueilleux. Il était pour eux une odeur de mort pour la mort. Mais pour la foi, il est une odeur de vie pour la vie. Ça, c'est dans 2 Corinthiens 2, 15, 16, lorsqu'il nous est parlé de cette odeur de vie, odeur de mort. Voilà, pour certains, le parfum de Christ, c'est quelque chose d'insupportable. Et pour d'autres, c'est vraiment une odeur, comment je peux dire ? C'est un ressourcement, c'est la vie même, c'est tout. Et ensuite, on avait l'encens pur. Donc, c'est produit par une racine brûlée qui donne une flamme blanche et pure qui monte devant Dieu. Pareil, l'image des perfections illimitées du Fils de Dieu. Et le texte ajoute justement pur aussi à la fin, ce qui indique symboliquement que dans les moindres détails de sa vie, Christ a manifesté la même perfection de manière constante. Donc Dieu ne change pas. Hier, aujourd'hui, éternellement, en tout temps, il reste le même. Donc ça, donc c'était l'encens qui était, où on appelait ça parfum odoriférant, qui était brûlé le matin et le soir par le sacrificateur. Et ça me faisait penser justement au temps où on a un trait du tabernacle, on sent déjà l'odeur du caractère de Dieu, de qui est Dieu. Mais chaque matin, le sacrificateur, ça le rappelait. Oui, voilà, Dieu est saint. Et aussi, on a ce verset qui dit chaque matin, les bontés de Dieu sont renouvelées, sont nouvelles chaque matin. Commencer notre journée chaque matin avec les pensées de Dieu. Je suis gardée dans sa main, je suis cachée en Christ. Le sang de Christ me purifie, ma conscience peut être purifiée. Le soir aussi, terminer aussi nos journées avec la méditation du caractère de Dieu. Ensuite, il y a d'autres aromates, mais je ne m'attarderai pas trop dessus, parce que déjà, c'est pas mal. C'est les aromates qu'on voit dans le Cantique des Cantiques. Et bien sûr, ça nous parle de la relation intime d'un homme et d'une femme, et par extension, la relation intime de Christ, du croyant. Il représente donc tous ces différents aromates, les sentiments d'amour, de reconnaissance produits dans le cœur de la bien-aimée par l'amour de celui qui l'a aimé le premier. Donc, Dieu, tout commence avec Dieu. Dans notre relation, c'est Dieu qui est venu nous chercher, c'est Dieu qui nous a aimé le premier. Et après nous avons la capacité de lui rendre, de l'aimer en retour. Alors dans la vie du croyant, je l'ai rappelé, maintenant nous sommes des sacrificateurs pour Dieu. Dans Apocalypse 1:6 et aussi toujours dans Apocalypse 5, il est parlé des coupes d'or remplies de parfums, qui sont les prières des saints. Oui, la prière. Aussi, on sait que maintenant, nous avons cet accès direct auprès du Père, alors que ceux qui adorent les idoles, ils brûlent des parfums. sans savoir s'ils sont écoutés et ils ne sont pas écoutés, parce que les idoles n'entendent rien. Nous avons ce privilège d'avoir cet accès par la prière et de savoir que nous sommes entendus par Dieu. Et je pensais, en aparté aussi, enfin, j'ai dû écouter le message de Ben, qui parlait de servir le Seigneur avec joie. Et je pensais que si Dieu demande quelque chose, eh bien c'est qu'on peut le faire pas par nos propres forces, mais il va pas demander quelque chose et en même temps pas nous donner le moyen de le faire. Et ça me réjouissait. Et pareil que dans la prière, il y a deux passages dans l'Apocalypse où les parfums sont les prières. Et puis il y a les parfums et les prières en même temps. Mais dans les deux cas, toujours on voit que le caractère de Dieu doit être dans nos prières. Lorsque je prie selon le caractère de Dieu. Que comme pour l'exemple des amis de Daniel, je me fais penser parce que ils n'ont pas voulu adorer la statue, et donc on leur a dit ben on va vous faire griller, hein, on va vous mettre dans la fournaise ardente, et ils se sont remis à Dieu, et ils n'ont pas présumé, ils n'ont pas dit Dieu va nous délivrer, et Dieu peut le faire, mais si Dieu ne nous délivre pas, eh bien on va quand même pas adorer la statue. Et cette attitude-là fait aussi qu'ils ont respecté le caractère de Dieu. Ils ont vu que le caractère de Dieu, quelle que soit la réponse, c'est que Dieu était bon, il était en contrôle. Et là, dans cette histoire-là en particulier, ils auraient pu rejoindre le Seigneur directement et c'était parfait pour eux. Mais le plan de Dieu, ça a été de les sauver de la fournaise ardente. Et lorsqu'ils sont sortis, et sur eux, ils n'avaient pas de l'odeur du feu. Dieu les a gardés, Dieu les a préservés. Ça aussi, c'est... Ben, lorsqu'on prie, on peut penser à ça, à cette histoire-là. Je suis peut-être dans une fournaise ardente. Je ne sais pas ce que Dieu est en train de faire et tout ça. Mais je peux m'appuyer sur le caractère de Dieu. Et comme il fera, ce sera parfait. Parce qu'en même temps, il me donnera la paix. Qui va avec une paix qui surpasse toute connaissance. Ça, c'est vraiment un passage qui me garde beaucoup. J'ai pas besoin d'avoir toutes les explications, mais je peux avoir la paix de Dieu. On voit que les parfums aussi, et bien c'est pas que pour nous. Bien sûr, quand on se met du parfum, eh bien, ce sont surtout les autres qui en profitent. Et dans Proverbe 27, 9, il est dit que l'huile et les parfums réjouissent le cœur et les conseils affectueux d'un ami sont doux. J'ai beaucoup aimé ce passage pratique de ce que le parfum de Christ peut produire dans la vie d'une autre personne. Ensuite, dans le Nouveau Testament, il est parlé aussi de la bonne odeur de Christ. Et on a un peu vu ça déjà dans 2 Corinthiens, chapitre 2, 14 à 17. Or, grâce à Dieu qui nous mène toujours en triomphe dans le Christ, il manifeste par nous l'odeur de sa connaissance en tout lieu. Car nous sommes la bonne odeur de Christ pour Dieu. À l'égard de ceux qui sont sauvés, et à l'égard de ceux qui périssent. Aux uns, une odeur de mort pour la mort. Aux autres, une odeur de vie pour la vie. Et qui est suffisant pour ces choses? Car nous ne sommes pas comme plusieurs qui frelatent la parole de Dieu. Mais comme avec sincérité, comme de la part de Dieu, devant Dieu, nous parlons en Christ. Nous avons ce privilège de pouvoir être la bonne odeur de Christ et l'odeur de sa connaissance. Et comment est-ce qu'on peut développer ce parfum-là? Eh bien, c'est par la parole de Dieu qui réside en nous, l'enseignement des Écritures. La parole de Dieu, elle est pure. Dans 2 Timothée 3:6, toute Écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Là, quand je préparais, j'étais tremblante. Voilà, c'est toujours un peu un défi. Et en même temps, je m'encourageais. Parce que j'ai dit, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu doit être proclamée, doit être enseignée, doit être expliquée de la bonne manière, comme il est dit. Parce que d'autres personnes tordent les Écritures. D'ailleurs, il est dit à un moment donné que nous ne sommes pas comme plusieurs qui frelatent la parole de Dieu. Et frelater, c'est le fait qu'un vin a tourné, si je ne me trompe pas. Et donc, comment la parole de Dieu, ça peut devenir du vinaigre au lieu d'être un breuvage voilà, qui va être bon goût et tout ça. Donc, là, on a une mission de garder la parole pure et puis de la proclamer pour que les gens soient sauvés et pour que les enfants de Dieu grandissent, deviennent des disciples et à nouveau annonce la bonne nouvelle de l'Évangile et manifester Dieu au travers de leur vie. Dans Éphésiens 5, 2 jusqu'à chapitre 6, verset 4, il nous est dit « Soyez donc imitateurs de Dieu comme de bien-aimés enfants et marchez dans l'amour comme aussi le Christ nous a aimés et s'est livré lui-même pour nous comme offrande et sacrifice à Dieu en parfum de bonne odeur. » Donc nous pouvons vraiment être un parfum de bonne odeur. Là on voit donc un impératif, un peu comme pour le message de Ben, où il dit « Servez l'Éternel avec joie ». Et comme il disait, on peut servir, mais pas avec la bonne disposition de cœur, quoi. Et en même temps, ben, si Dieu nous le demande, réjouissez-vous, ben c'est que c'est possible, même peu importe les situations. Pas par nos propres forces, comme je l'ai dit, mais par une dépendance à Dieu. Et en marchant par la foi, en saisissant justement la parole de Dieu, et être comme Marie qui gardait ces choses dans son cœur et qui les repassait. Parce que, voilà, on peut être des auditeurs oubliés aussi. Donc là, eh bien, le travail de la foi n'est pas complet. Donc là, il nous est dit, soyez donc imitateurs de Dieu à nouveau. Un nouvel impératif, donc. Un impératif, c'est soit un conseil, un ordre, une recommandation. Et donc, Dieu n'est pas menteur. Moi, je peux dire, passe une bonne journée, sois content, mais je n'ai pas la puissance de produire ça. C'est un désir que j'aurais, mais Dieu, lui, s'il nous dit les choses, il nous dit, c'est que il veut le faire, ce qu'il nous demande, il l'accomplit en nous. Bien sûr, il faut notre participation, donc il y a toujours le libre arbitre. On peut être enfant de Dieu et ne pas être imitateur de Dieu. C'est pour ça que, voilà, il y a dans nos mains, il y a le temps qui nous est donné par Dieu, il y a un libre arbitre aussi que nous devons utiliser pour les choses éternelles. Soyez donc. Et en même temps, ça m'encourageait vraiment parce que tout ce que Dieu nous dit, soyez saints, mais c'est impossible. Oui, c'est impossible pour toi, mais c'est possible pour moi. Parce que regarde le parfum, regarde les perfections de Christ, regarde jusqu'où je suis allée. Donc, c'est un parfum de bonne odeur. Alors ensuite, j'aimerais lire tout ce qui suit, parce que ça devient très, très pratique, bien sûr, où il dit « Mais que ni la fornication, ni aucune impureté ou cupidité ne soient même nommées parmi vous, comme il convient à des saints. » Donc là, l'apôtre s'adresse et parle de choses... qui ne doivent pas se passer, mais comme on est pécheur, on peut être tenté par ces choses-là. Tout ce qui est impureté, il est parlé d'œuvres des ténèbres, mais que nous sommes de la lumière. Il dit, vous étiez autrefois un peu plus bas, ténèbres, maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. Pareil, c'est un impératif, c'est une... recommandation, une exhortation. Vous êtes appelé à ça. C'est votre destinée. C'est votre... oui, vous êtes là sur terre pour cela. Pour faire briller la lumière de Dieu. Et en même temps, il y a ce combat dont parlait l'apôtre Paul. C'était un bon combat. Oui, combattre contre les œuvres ténébreuses qui ne glorifient que l'ennemi de Dieu qui est le diable. Dans 2 Timothée 2, 17, il est parlé que il a égaré donc ces gens qui suivent leur propre chair en les soumettant à sa volonté. Il n'y a pas un endroit gris où je fais la volonté de Dieu et puis après je suis juste entre les deux, je suis en stand-by. Non. Dans Jean 10, il est dit que Christ est le bon berger et en même temps le diable, il vient pour voler, pour détruire, pour dérober. Et il est à l'œuvre malheureusement dans ce monde et il va emmener le plus de monde possible avec lui dans le lac de feu. Donc, voilà pourquoi tu as tellement d'impératifs. Le temps est court. Et on a une carrière qui est devant nous, une course avec tellement de belles choses à vivre. Et on a beaucoup d'exemples qui ont choisi de vivre ça. Et on voit le fruit de leur vie en pensant à toutes ces personnes qui sont maintenant dans la gloire avec le Seigneur. Il est dit, prenez donc garde plus bas, toujours dans Éphésiens, à marcher soigneusement, non pas comme étant dépourvu de sagesse, mais comme étant sage, saisant l'occasion, parce que les jours sont mauvais. Et ensuite, il nous est parlé d'être soumis les uns aux autres un peu plus bas dans la crainte de Christ. Et de manière pratique, femmes, soyez soumises à vos propres maris comme au Seigneur. Et ensuite, il dit, comme l'Assemblée est soumise au Christ, ainsi que les femmes le soient aussi à leur mari en toutes choses. Alors ça m'a arrêtée parce que ça m'a montré, j'avais jamais vraiment vu que le fait d'être soumise à mon mari, c'était vraiment l'expression visible du corps de Christ soumis à Christ, l'assemblée soumise à Christ. Comment est-ce que les gens voient Christ? C'est par le corps de Christ. Donc l'assemblée locale et Christ qui dirige. Donc c'est vraiment quelque chose de très important. Et le fait qu'une femme soit soumise à son mari, c'est au même niveau aux yeux de Dieu. Donc, je ne sais pas si j'arrive à bien l'exprimer. Je sais qu'en plus, c'est pas dans l'air du temps, mais c'est peut-être pour ça que c'est autant attaqué. Mais il y a vraiment une bénédiction à suivre ces recommandations, à vraiment respecter nos maris, prier pour nos maris, les honorer de différentes manières. Et après, bien sûr, il est parlé de ce que les maris doivent faire, mais bon, c'est à eux de faire, donc je n'ai pas mis à tarder. Et après, ensuite, il y a plein de choses donc pratiques. On est passé de quelque chose d'être imitateur de Dieu, de quelque chose enfin, presque mystique, et puis là, ça devient quelque chose de très pratique. Et tout ça pour montrer de manière palpable le caractère de Dieu dans nos vies, dans ce que nous faisons. Plus loin, on voit, pour les enfants, obéissez à vos parents dans le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement avec une promesse, afin que tu prospères et que tu vives longtemps sur la terre. Ça, c'est aussi quelque chose que, malheureusement, on voit de moins en moins. L'enfant est tout le roi, et les parents doivent se soumettre à eux. Mais c'est un signe des temps où il est dit que les enfants seront rebelles. Donc c'est important pour nous en tant que parents de se rappeler que Dieu nous a donné ce mandat d'élever nos enfants dans la crainte du Seigneur. Et ça passe par en passant par nous, qu'ils nous obéissent, qu'ils soient soumis à nous, parce que plus tard, ben, ils auront besoin de fléchir le genou devant Dieu, d'accepter comme leur sauveur. Donc ça, c'est quelque chose qui... C'est vraiment une chose importante. Et puis par la suite, un peu plus bas, servant joyeusement, là c'est pour les esclaves et tout ça, comme asservi au Seigneur et non pas aux hommes. Moi j'ai fait le lien avec le fait d'être au travail aussi, d'avoir cette attitude. J'obéis à mes maîtres comme à Christ. Je suis asservi au Seigneur et tout l'honneur que je veux donner au Seigneur, je veux donner le même honneur à mes autorités. Je sais que matin, quand j'essaie de penser, de prier pour ceux qui sont en autorité, les gens avec qui je travaille, les gens que je sers aussi dans mon travail d'aide-soignante. Et je vois vraiment comment Dieu, de manière pratique, me donne soit des mots, soit des gestes, soit... une perspective que je n'aurais pas naturellement. Et donc, on peut manifester finalement le caractère de Dieu aussi à chaque instant de notre journée. Avoir ce parfum qui brûle le matin, le soir, ça nous parle aussi de cette parole de Dieu qui nous lave, parce que bien sûr, nous sommes dans un corps de mort, mais la parole de Dieu nous lave. Et le fait d'avoir cette habitude de lire la parole de Dieu, eh bien, ça fait un travail en nous, ça renouvelle nos pensées.